Joyeux anniversaire, Laetitia
Je
Gaillet,
savais.
joyeux anniversaire. Joyeux
Joyeux anniversaire,
anniversaire, Laetitia
c'est
Gaillet.
moi.
Joyeux anniversaire. Ouais.
Ils sont contents, vos invités, hein, ça.
27
voilà.
ans.
27 ans.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Le bel âge.
C'est exactement ça. Je vais aller ouvrir mes cadeaux que vous m'avez laissés dans ma loge.
Allez, à tout à l'heure, 11h. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse. Et comme tous les lundis, une émission consacrée à la santé, avec un coup de projecteur ce matin sur la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde qui tue près de 400 personnes chaque jour. Nous verrons comment prévenir cette pathologie qui n'est plus l'apanage des hommes fumeurs en surpoids d'âge mûr. Chez les femmes de moins de 65 ans, la crise cardiaque progresse de façon inquiétante. Comment détecter les symptômes d'une crise cardiaque? Tabac, stress, surpoids? Comment vraiment prendre conscience des facteurs de risque qui altère le bon fonctionnement du muscle cardiaque? Comment vraiment chouchouter son petit cœur? Nos deux invités vous délivreront quelques précieux conseils de prévention. Nous attendons toutes vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Clarisse et Ulysse attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
On apprend plein de choses quand on fait un arrêt cardiaque. Moi, je connaissais pas l'hypothermie thérapeutique. En gros, on refroidit le corps et le sang se concentre sur les organes vitaux. Le cœur, le cerveau. On apprend aussi que la charlotte en papier, c'est peut-être très utile du point de vue sanitaire, mais ça donne vraiment des têtes de con. Le lendemain, je m'étais réveillé bien, tranquille, plutôt en forme.
Ça va, mon amour?
J'ai envie de frites. Avec de la mayo.
Un extrait du film Barbecue d'Éric Lavenne en 2014. Pour nous délivrer quelques conseils de prévention, deux invités ce matin. Bonjour docteur Fabien Guèze.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, vous venez de publier un ouvrage qui connaît déjà un grand succès, Comment avoir une crise cardiaque, publié chez Hugo Doc avec des illustrations de Lefred Touron. Bonjour docteur Sauveur Boucris.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans un quartier populaire du nord de Paris, expert éclairé de notre émission, et vous publiez un nouvel ouvrage, Libérer le médecin qui est en vous, au Cherche Midi, dans la collection Agir pour guérir. Alors, question rituelle pour nos invités médecins, quels sont les conflits d'intérêts avec les laboratoires et autres cadeaux et avantages prodigués par l'industrie pharmaceutique? Docteur Guèze.
À part ceux de ma femme, qui sont relativement rares, je n'ai pas vraiment de conflits d'intérêts.
Docteur Boucris.
Non, moi j'ai pas de relation.
Alors, docteur Fabien Guèze, comment avoir une crise cardiaque? C'est bien sûr un titre à prendre au second degré. Vous en aviez assez, hein, des patients qui écoutaient poliment vos recommandations et conseils de prévention, mais qui ne les mettez pas beaucoup en pratique.
C'est vrai que tout le monde sait qu'il faut faire plus de sport, qu'il faut manger moins gras, moins sucré, etc. Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque les maladies cardiovasculaires augmentent de toute façon. Donc je me suis dit qu'il fallait aller dans l'autre sens, écrire un bouquin plutôt rapide, il y a 130 pages, je voulais que les gens le lisent facilement et rapidement. Et je voulais vraiment donner plutôt que de dire ne faites pas si, si vous voulez vraiment avoir une crise cardiaque, sachez ce qui existe et c'est vraiment facile d'aller dans ce sens-là.
Mais vos patients sont surinformés et pourtant ils zappent vos conseils.
Mais surinformés, ça ne veut pas dire mieux informés. C'est ça le gros problème de la médecine de zéro maintenant, d'Internet.
Mais comment vous expliquez ce paradoxe?
Comment
vous expliquez ce paradoxe?
Parce que les gens sont, vous le dites, les gens sont surinformés, ils ont donc des informations dans tous les sens, mais peut-être parfois, c'est comme les impôts, trop d'informations tue l'information. Donc il faut que les gens sachent simplement ce qui peut leur causer vraiment de gros problèmes en cardiologie. Et c'est facile à connaître, plutôt que de dire aux gens... Faites plus de sport, mangez mieux, etc. Tout le monde le sait, ça. Je veux dire, quand j'interroge mes patients, on sait que l'observance, c'est bien prendre quelqu'un qui est observant, c'est quelqu'un qui prend bien son traitement. L'inobservance, c'est 60% des gens. C'est énorme. Donc, pour dire que les gens écoutent, mais ils font après ce qu'ils veulent, bizarrement.
Docteur Boucris, dans votre quartier populaire, dans le nord de Paris, est-ce que vos patients sont vraiment sensibles aux messages de prévention?
Ah, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est vrai d'un côté, et grâce au site internet, grâce aux médias, ils sont de mieux en mieux informés. Mais entre la théorie qu'on connaît et puis la pratique qu'on réalise, eh ben, il y a vraiment un gap, il y a vraiment une différence. Et on sait très bien, et il a raison le docteur Guest de dire, ben, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais dans la vie pratique, dans la vie réelle, eh ben, les choses sont vraiment différentes. Et je dis toujours, ben, c'est ça le rôle du médecin, c'est de trouver le compromis entre les recommandations des spécialistes et puis le vécu et le parcours du malade. Et, voilà. Et tout l'art médical, ben, consiste à trouver cette synthèse, ce juste milieu qui permet aux gens de vivre. Parce qu'après tout, la médecine, c'est la vie.
Docteur Guest, vous estimez que les grands progrès de la médecine et de la chirurgie cardiovasculaire ont banalisé certaines maladies du cœur ?
Complètement. Les gens n'ont plus vraiment la notion du sérieux de leur maladie. Vous avez un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire que vous êtes proche de l'infarctus. On vous hospitalise, on vous fait une coronarographie, on vous pose un stent, vous ressortez 3 jours après. Il y a 20 ans, vous restiez un mois à l'hôpital, etc. Donc les gens n'ont pas la notion vraiment du sérieux de leur maladie évolutive.
Et surtout, la grande particularité des pathologies cardiovasculaires, c'est qu'elles sont souvent asymptomatiques, qu'elles avancent insidieusement.
Exactement. Vous avez l'hyperglycémie, c'est juste un chiffre sur une feuille de papier. L'hypercholestérolémie, le tabac, ça change pas le comportement. Donc pour la plupart des patients, finalement, d'avoir une glycémie élevée, d'avoir un cholestérol élevé, ça change pas vraiment leur vie. D'où l'intérêt de les sensibiliser, de leur dire exactement, de leur expliquer ce que c'est que l'hypertension, ce que c'est que les risques qu'ils prennent quand ils sont diabétiques, par exemple.
Alors, le cardiologue passe souvent pour un trouble-fête, un rabat-joie, un sermonneur. Pareil pour le généraliste qui tente de faire prendre conscience des dangers d'un mode de vie qui fait le lit des pathologies cardiaques. Docteur Boukri, il y a une histoire qui vous trotte dans la tête depuis des années. C'est ce chauffeur de taxi de 65 ans, plutôt hédoniste et heureux, qui vous tend des analyses sanguines pas très bonnes en termes de glycémie ou de cholestérol. Et là...
Oui, moi j'avoue que c'est une histoire qui me trotte, et encore aujourd'hui, c'est une histoire qui date de plus de 20 ans. C'était un chauffeur de taxi, 65 ans, bon vivant, un peu bedonnant, rigolo, et qui me dit « bon, maintenant il est temps que je fasse un bilan ». Donc je l'examine, on prend sa tension, on lui fait un bilan, et puis il revient quelques jours plus tard avec des chiffres. Voilà, une glycémie un petit peu plus haute, un cholestérol, un surpoids. Et je lui dis, comme tout médecin pourrait dire, faut réduire les graisses, faut manger moins de beurre, faut faire un peu plus de sport, faut pas fumer, faut pas trop se stresser. Et au fur et à mesure que je lui donnais ses conseils, ses recommandations, je voyais que son visage se décomposait et il se disait, mais qu'est-ce que je suis venu faire chez ce médecin? Je vais aller profiter de ma retraite, et puis il m'assigne de contraintes et ma vie va devenir un enfer. Bon, quand je le raccompagne à la porte, eh bien, pareil, j'ai eu l'impression qu'il était décomposé. 8 jours plus tard, sa femme m'appelle un matin, très tôt, en me disant, je crois, docteur, venez vite, je crois que mon mari, il est mort. Et j'arrive à 8h30 chez lui, et c'est vrai que je vois ce sympathique patient, chauffeur de taxi, bon vivant, en pyjama bleu, la tête sur son bol de café au lait, et il était mort. Et j'imagine la scène, sa femme a dû lui dire, mais écoute, le docteur t'a dit ne pas prendre trop de tartines de beurre, de confiture, etc. Et il a dû se stresser, et rétrospectivement, moi j'ai eu l'impression que je suis un petit peu, j'ai contribué, je dirais un petit peu, indirectement à son décès, et ça m'a servi de leçon à moi, médecin, c'est que quelquefois, en médecine, le mieux... Et l'ennemi du bien. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Il faut trouver, je dirais, l'équilibre entre les normes, les recommandations, les statistiques et tout ça, qu'on connaît tout ça par cœur. Et puis le ressenti du malade. Et je pense que ce chauffeur de taxi avait probablement des facteurs de risque, mais je crois que j'en ai fait un peu trop.
Docteur Guest,
j'imagine que vous êtes heureusement pour rien. Il aurait de toute façon déclenché sa crise cardiaque. Mais moi, j'ai l'exemple inverse. Qui est plus parlant. Je vois pour la première fois un patient, je diagnostique tout de suite un infarctus, donc l'hospitalise, on lui pose un stent, etc. Il sort 3 jours après, entre parenthèses, on lui sauve la vie, et il revient à mon cabinet pour m'engueuler, en me disant, je comprends pas, je suis mec, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de glycémie, je suis pas gros, je fais du sport, etc. Pourquoi j'ai fait un infarctus? Bon, d'abord, on n'y est pour rien, c'était la première fois que je le voyais. Je lui dis, mais il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que vous faites un régime? Non, j'ai pas de cholestérol, je suis maigre, je vais bien. Je mange des rillettes tous les soirs depuis 15 ans. Donc pour dire que ce qu'on mesure, le cholestérol sur les analyses, c'est le cholestérol circulant, puisqu'on fait une prise de sang. ça c'est celui qui est fabriqué par le foie. Tandis que le cholestérol qu'on mange, il a plus tendance à se coller sur les parois. Donc on ne peut pas le mesurer. Pour dire que 40% des gens qui font un infarctus ont un cholestérol normal.
Bonjour Lynne Perraudin.
Bonjour Ed.
Directrice de Santé Magazine, que l'on retrouve tous les lundis. Alors Zoom tout à l'heure sur les femmes de plus en plus touchées par les maladies cardiovasculaires.
Oui, ben l'infarctus n'est pas réservé qu'aux hommes. Et puis, outre cette idée reçue, les femmes sont d'autant plus à risque qu'elles ne connaissent pas forcément les symptômes atypiques qui annoncent la survenue de l'infarctus.
À tout à l'heure, Aline Perraudin. Allez, il est temps de retrouver notre prof de philo, un prof de philo qui court beaucoup, beaucoup pour fortifier son petit cœur, Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors les maladies cardiovasculaires posent la question de la vie qui peut s'arrêter à tout instant. Comment vivre heureux quand tout peut s'arrêter suite à une crise cardiaque qui ne prévient pas bruyamment?
On y va là, allez. Ok, ok. Attention. Ok. 1, 2, 3. Doucement. Ok, on sécurise. Allez, on fonce là.
En main fendaire, 39 ans, latence douleur dans la poitrine et au bras gauche.
Tachycardie et surventilation.
On a vraiment stabilisé pour l'instant, mais le malaise remonte à
45 minutes.
Fais-tu déjà un iono, le gaz du sang, un ECG, une IRM, si besoin pour recharger 600 en potassium et en sodium.
Ok.
Voilà, c'est un petit peu stressant
pour un peu.
Une lundi matin. Mais comme on l'entend donc dans cet extrait de Superchondriac, hein, on n'est jamais totalement à l'abri. Et même si on fait tout pour l'éviter, bah, la crise cardiaque est toujours possible. Et c'est un peu ça en fait, hein, le mythe de la crise cardiaque, c'est l'arrêt brutal de la vie, même si toutes les crises cardiaques ne conduisent pas, ne sont pas fatales. En tout cas, on comprend derrière cette expression que nous vivons d'une vie bien fragile et qui peut s'arrêter à tout moment. Alors là, je peux sortir du studio, ça peut être demain, ça peut être dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans. La seule certitude, c'est que ma vie s'arrêtera. L'incertitude, c'est quand et comment. Alors bon, voilà, avec en plus l'extrait qu'on a diffusé au début, hein, on nous dit bah bravo, c'est gay, bonjour la déprime. Et pourtant, dire ça, c'est aussi la condition d'une vie heureuse.
Alors Thibaut, il va falloir nous expliquer comment savoir que l'on peut mourir à tout instant. Cette idée-là, eh ben, c'est la condition du bonheur.
Eh bien, j'y arrive. Hein. La différence entre le simple fait de vivre et celui d'exister, c'est tout simplement la conscience que l'on en a. Les plantes vivent, mais rien n'atteste qu'elles ont la conscience de cette vie. Nous autres humains, nous vivons et nous avons conscience de cette vie en nous. Avoir donc conscience d'être en vie et de vivre sa vie, eh bien, c'est exister. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. Sauf que la doublure de cette pensée, l'envers, c'est un peu de se savoir exister, c'est de se savoir mortel. L'existence est donc tout autant conscience de la vie que conscience de la mort. Et en fait, tout le pari de la philosophie, c'est de dire qu'il faut avoir une juste pensée de la mort pour pouvoir être heureux malgré elle, malgré la mort qui vient.
Parce que cette pensée juste de la mort, c'est en fait une façon de se défaire de la peur de la mort.
Oui, exactement. La mort s'impose d'abord à nous à travers la peur que l'on en a. Et le premier travail de la philosophie, bah, ça consiste à nous libérer de cette peur. Platon et Socrate, par exemple, proposaient de soigner le mal par le mal, si on peut dire, en disant qu'il fallait commencer par apprendre à mourir. Moi, je préfère la solution d'Épicure, qui est à la fois plus simple et plus radicale. Épicure nous explique que la mort, au fond, n'est rien pour nous. Parce qu'il y a une incompatibilité logique entre la mort et la vie, parce que nous ne sommes jamais les contemporains de notre mort. Alors le raisonnement est assez imparable. Quand nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts, et quand nous sommes morts, eh bien nous ne sommes plus vivants. Alors certes, hein, on peut mourir à tout instant, mais il nous est impossible de le prévoir, et la mort est donc profondément inactuelle.
Mais ne plus avoir peur, n'est-ce pas au contraire faire preuve d'inconscience ?
Mais non, parce que l'inconscience, ça serait de vivre comme si la mort n'était pas possible. La sagesse, au contraire, c'est de vivre en sachant que la possibilité de la mort est étrangère à la possibilité d'être heureux. Alors pourquoi ? Parce que cette inactualité de la mort garantit notre liberté. Sartre écrit « Nous mourrons toujours par-dessus le marché ». Ça veut dire que notre liberté ne rencontre en fait jamais la limite de notre propre mort. Le choc que représente une crise cardiaque, c'est précisément celui-là. Et nous connaissons tous hein, des histoires de proches ou de connaissances qui sont précisément mortes en pleine activité. On meurt en faisant du sport, en jardinant, on meurt sur scène parfois, en allant au travail aussi, on meurt en faisant l'amour ou simplement en faisant la sieste. Voilà, c'est évident mais c'est essentiel. On meurt toujours en faisant autre chose. Ce qui veut dire que l'expérience de sa propre mort est rigoureusement impossible. Ce qui veut dire aussi qu'il nous appartient tout entier de donner du sens à cette vie dont nous vivons et que nous n'avons finalement aucune excuse, aucun prétexte, parce que quoi qu'il arrive, nous resterons libres jusqu'au bout.
Et je vous recommande la lecture du Jardin d'Épicure du grand psychiatre existentialiste Irvin Yalom. Petit commentaire de nos deux médecins, peut-être, monsieur Boukris.
Oui, bah écoutez, moi j'apprécie beaucoup les chroniques de Thibault.
Merci.
Je dis toujours, exister, c'est pas vivre. Voilà. Moi, médecin, je dis toujours à mes patients, vous existez, moi, je vais essayer de vous faire que vous vivez bien, et vous vivez avec votre maladie. Et dans mon livre, Libérer le médecin qui est en vous, je dis toujours, eh ben, ce livre va vous faire du bien parce que je vais vous donner les moyens de vivre malgré votre maladie. Nous, médecins, on va s'occuper de votre maladie, mais vous êtes aussi une personne. Vous êtes une personne avec votre parcours de vie, vos désirs, vos souhaits. Et tout mon travail, c'est de vous faire vivre le mieux possible et le plus longtemps possible avec vos convictions. Je m'occupe de la maladie, occupez-vous de votre vie.
La petite philo de la vie quotidienne, c'est tous les lundis dans Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre, mer 5 à 7 forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.
Raphaël, l'année la plus chaude de tous les temps.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h26 et nous vous délivrons ce matin quelques conseils pour éviter une crise cardiaque avec le cardiologue Fabien Guèze et le médecin généraliste Sauveur Boucris et avec la complicité d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Bonjour Angèle.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez du Lot-et-Garonne.
Oui, c'est ça, les lunettes sur Lot, exactement.
Voilà, vous êtes cardiaque?
Oui, j'ai eu un problème cardiaque, oui, un infarctus il y a une vingtaine d'années.
Mm-hmm. Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 38 ans, quoi, mm-hmm. Voilà. Alors, donc après, j'ai fait je suis allé faire une cure thérapeutique au niveau du cœur. Mm-hmm. J'étais le plus jeune, j'étais le seul qui avait 40 ans. Et tout le reste, les patients, à peu près une soixantaine, avaient 70 ans. Et j'ai refait un infarctus l'année dernière. Et je suis revenu faire cette cure. Et bizarrement, il y avait beaucoup de jeunes de 40-50 ans. Beaucoup.
Ça, c'est ce qui vous a frappé?
Ah oui, oui. Il y a 20 ans, ça m'avait frappé parce que j'étais le plus jeune qu'il y avait, entre guillemets, que des anciens. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, quoi. Et j'étais plus âgé qu'eux, donc ça m'a surpris. Et surtout aussi au niveau des femmes. Beaucoup de femmes, alors qu'il y a 20 ans... J'ai même pas de souvenir qu'il y en ait une, quoi, il y a 20 ans.
On va revenir tout à l'heure avec Aline Perraudin sur le cas des femmes, mais est-ce que vous l'aviez vu venir, cet infarctus, Angèle, à 36 ans, quand vous aviez 36-38 ans?
Ouais. Alors je vais vous dire, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, chaque fois que je croise même des jeunes, il y a un petit truc avant-coureur qui fait que j'ai fait un effort. C'est-à-dire que j'ai déchargé une remorque de sable à la main et j'ai eu une petite douleur au niveau de la gorge, vous voyez, comme un petit étranglement. Ça a duré quelques secondes. Et dès que j'ai arrêté, c'est parti. Mais plus de douleur, plus rien. Et comme par hasard, voilà, 8 jours après, j'ai eu ce problème cardiaque.
Question très pratique, docteur Guèze.
Sur le symptôme?
C'est quoi une crise cardiaque?
Alors, une crise cardiaque, le cœur vascularise évidemment, aide à la vascularisation de tout l'organisme, mais lui, il faut bien qu'il soit vascularisé. Et il est vascularisé par des artères coronaires. Et quand ces artères, il y en a plusieurs, quand ces artères se bouchent, évidemment, la partie qui est irriguée en aval de l'obstruction, et bien évidemment, elle se nécrose, elle s'infarcit. C'est pour ça qu'on parle d'infarctus.
Et les symptômes?
Alors, une chose très importante, ce monsieur a raison, toute personne, tout symptôme qui survient à l'effort doit entraîner une consultation médicale. Les symptômes qui surviennent parfois au repos sont pas toujours, sont plus souvent bénins, mais tout symptôme qui survient à l'effort doit faire consulter.
Alors ce qui est inquiétant, c'est que l'infarctus du myocarde peut passer inaperçu. On peut faire un infarctus du myocarde sans le savoir, sans s'en apercevoir?
Bien sûr, ça dépend évidemment de la taille. Si vous bouchez une toute petite artère coronaire, vous allez faire un tout petit infarctus. Vous ne le savez même pas. Les diabétiques font souvent ont un seuil de douleur plus élevé. Donc les diabétiques font souvent des infarctus sans le savoir.
Docteur Boucris, comment différencier une crise cardiaque d'une douleur intercostale?
D'abord,
est-ce qu'on peut ressentir une forte douleur à la poitrine? Alors en fait, il s'agit plutôt d'une douleur intercostale, mais est-ce qu'on peut faire la...
Moi je dis toujours, les douleurs neurologiques ou arthrosiques, etc., ça s'indique bien souvent avec un doigt. C'est-à-dire qu'on montre la douleur, on la localise. La douleur de l'infarctus, elle est globale. On montre sa main, diffuse. On écarte sa main et on montre la douleur sur la poitrine. Donc
douleur
déjà
diffuse.
Douleur diffuse.
Une douleur qu'on décrit avec le doigt et plus souvent arthrosique, voilà. Etc. Donc, mais il n'y a pas de...
Il n'y a pas de règle.
La douleur typique, l'écrasement du thorax, l'irradiation d'urgence, c'est une fois sur trois à peu près.
Et deuxième chose, donc ça survient à l'effort, et c'est vrai, on monte des escaliers, on monte une côte, ça survient au froid aussi. Les gens disent, quand il a fait froid, je ressentis une douleur. Et quand il fait doux,
au vent,
froid, voilà. Et donc c'est vraiment une douleur qui est très différente, qui dure, qui irradie parfois dans la mâchoire, dans les épaules, et on voit que c'est quelque chose qui est différent de la petite douleur, je dirais arthrosique, où on sent que ça va, ça vient.
Angèle, vous avez fait une crise cardiaque à l'âge de 38 ans. Est-ce que vous avez mis en œuvre après cette crise cardiaque de la prévention? Est-ce que vous avez fait attention?
Alors, on ne prend pas. Le problème, c'est que trop jeune, on ne prend pas conscience de la gravité de ce qu'on a eu. Parce que il est vrai que c'est une coronaire qui était bouchée et ainsi de suite, mais dès que c'est débouché ou qu'il y a un sting, vous n'avez plus rien, quoi. vous ne sentez, s'il n'y a pas eu de dégâts au niveau du cœur, au niveau du muscle, vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous avez eu un problème cardiaque. Donc, vous ne prenez pas conscience. Tout repart comme si de rien n'était, quoi. C'est-à-dire la cigarette et ainsi de suite.
Docteur Guez.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'envers de la médaille, hein. Je veux dire, les progrès ont été tels que, on est très très vite corrigé, on n'en est pas guéri, on est corrigé. Et donc, les gens n'ont pas la mesure, la notion de la gravité de leur maladie qui est vraiment évolutive.
Merci beaucoup, Angèle, de nous avoir appelé du Lot-et-Garonne. Alors, Docteur Guez, vous proposez dans votre ouvrage, comment avoir une crise cardiaque, un petit quiz du cœur. Alors, on le fait, ce petit quiz?
Si vous voulez.
Allez. Vous n'avez pas calculé votre taux de cholestérol depuis plus de 5 ans. Vous fumez. Vous avez plus de 50 ans et vous n'avez jamais consulté un cardiologue. Vous êtes plus ou moins sédentaire. Vous ne faites pas vraiment attention à ce que vous mangez. Si je réponds oui à plus de 3 affirmations, je dois m'inquiéter ?
Oui. Oui, oui, vraiment, oui. Vous augmentez votre assurance, hein, santé.
Oui. Docteur Boukris.
Oui, alors, je suis médecin, mais je suis aussi observateur de mes malades. Bon, alors, moi, après plus de 30 ans de pratique, sans remettre en cause les dogmes médicaux, sans remettre en cause les normes et les recommandations, je dis qu'en médecine, il y a quand même pas mal d'incertitudes. C'est toujours après coup qu'on explique les phénomènes. C'est après un infarctus qu'on dit « Ah, il avait des facteurs de risque, ah, il avait quelque chose ». Mais on peut pas, je dirais, anticiper et on peut pas, je dirais, appréhender les choses.
Oui, mais docteur Guez, il y a quand même des certitudes. Par exemple, quand une artère se bouche, elle se bouche pourquoi, par exemple ? Quelles sont les certitudes ? Elle se bouche pour quelles raisons ?
Elle se bouche parce que, je veux dire, la paroi de l'artère, c'est épaissi du fait de par des plaques d'athérome, par des plaques de graisse qui sont calcifiées chez les gens qui ont une hypercholestérolémie, chez les gens qui ont du diabète, chez les gens qui ont de l'hypertension, les sédentaires, les ceux qui ont du surpoids. C'est une vraie maladie, quoi. C'est une véritable maladie.
Et là, quand l'artère se bouche, le sang s'écoule de façon aléatoire, c'est ça, de façon moins fluide.
Ah non, si l'artère se bouche, le sang ne passe plus.
Ah, il passe plus, d'accord.
Et ce qui est en aval, ce n'est qu'autre. Point final. À l'inverse du syndrome coronarien aigu, qui peut alerter parfois les urgences, et avant de faire son infarctus, c'est là qu'on a des grosses douleurs, etc.
Alors, quels sont les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, docteur Guez ? Je pense à l'hérédité.
L'hérédité, bien sûr. Si vous avez, on parle d'hérédité de parents directs, hein, parce que souvent les gens vous décrivent le grand-père, la tante, etc. Ce sont surtout les parents directs, hein, le père, la mère, frère et sœur. Les facteurs non évitables, évidemment, c'est le sexe, c'est l'âge. Quoi d'autre ? Les facteurs génétiques, hein, enfin, on peut pas lutter. Je dis toujours que dans 60% des cas, le facteur génétique est important.
Chaque jour, 400 personnes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Dans plus de la moitié des cas, les victimes sont des femmes. N'attendez plus pour prendre soin de votre cœur. Fédération française de cardiologie.
Un extrait d'un spot de la Fédération française de cardiologie. Aline Perraudin, les femmes sont de plus en plus touchées par les pathologies cardiovasculaires. On a longtemps affirmé que les hormones féminines, les œstrogènes, protégeaient les artères des femmes.
Oui, protègent jusqu'à la ménopause, mais néanmoins, les femmes adoptent un mode de vie qui peut être très mauvais pour le cœur. Elles fument, elles peuvent être sédentaires, et donc ce sont des facteurs de risque nouveaux pour elles. Et on voit d'ailleurs que ces 15 dernières années, le nombre d'infarctus a triplé chez les femmes de moins de 50 ans, et cette progression est liée forcément aux facteurs à la vie, à leur vie, surtout le stress aussi, dont parlait le docteur Boukris.
Le tabac aussi.
Et le tabac, bien sûr.
Et le tabac associé à un contraceptif, ça accroît vraiment le risque de crise cardiaque.
Il faut faire très attention dans des périodes charnières comme ça, la grossesse et puis la ménopause. Et effectivement, on l'a vu avec l'affaire des pilules, où ça a augmenté le risque de thrombose.
Il y a une différence entre les hormones naturelles, évidemment, qui protègent les hormones de synthèse. Hein. Il faut insister sur l'association tabac-pilule, qui est une véritable catastrophe. Et c'est vrai que la mortalité cardiovasculaire, c'est la première mortalité maintenant chez la femme, parce que les femmes stressent, elles travaillent moins avant, hein, hélas. Elle fume, elle...
Mais je pense qu'elles ne se sentent pas encore assez concernées, puisque en plus, les symptômes ne sont pas forcément typiques, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas forcément la puissante douleur au thorax qui irradie dans le bras gauche et remonte dans la mâchoire. Dans deux tiers des cas, l'infarctus se présente différemment chez la femme. Les signes avant-coureurs sont beaucoup plus sournois. Par exemple, ça peut se traduire par un essoufflement, des palpitations à l'effort. Ces signes sont associés à une fatigue persistante, ou alors on peut voir des signes digestifs. Par exemple, la femme se sent barbouillée, il y a des douleurs dans le creux de l'estomac, on croit que c'est une gastro, mais ça revient. Et donc ça, c'est des signes atypiques. Il ne faut vraiment pas hésiter à consulter quand on voit que ça revient.
Docteur Gay.
Et ça, c'est vraiment la difficulté du cardiologue, de ne pas aller passer d'un extrême à l'autre, ne pas penser à un infarctus dès qu'une femme a un essoufflement et une douleur abdominale. Mais c'est vrai que les symptômes chez la femme sont assez atypiques.
On a cru souvent que c'était de l'angoisse aussi.
Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Vous appelez de La Réunion, bienvenue.
Tout à fait, oui. Bah, écoutez, je tout ce que j'entends, effectivement, fait partie du petit cheminement de mes débuts de 50 ans, puisque j'ai eu 50 ans au mois de décembre. Mm-hmm. Et au mois de novembre, j'ai fait un très, très gros malaise. Mon fils m'a emmené aux urgences, puisque j'avais 18 de tension. Et on s'est aperçu que je faisais de l'hypertension. Et puis, trois jours après, j'ai eu un très, très violent mal de tête qui était à la base de la nuque et m'a carrément poignardée. J'étais vraiment dans une très grande souffrance. Et ma question, c'était à savoir, voilà, j'ai de l'hypertension, certes, je la soigne, ok. J'ai toujours des sensibilités qui sont là et qui, malheureusement, je pense, vont perdurer. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert à travers cette douleur intracrânienne que j'avais un cavernum. C'est-à-dire que j'avais une petite pelote de veine au niveau de mon cerveau qui était complètement bouchée. Et je voulais savoir si, à travers ça, je pouvais avoir une crise cardiaque puisque mon père est cardiaque et que je fais de l'hypertension. Donc, vous voyez, j'ai un gros travail à faire et des réponses à avoir parce que je vous avoue, sur l'île de La Réunion, écoutez, on ne sait pas me répondre. Mmh.
En sachant que l'hypertension artérielle, c'est un vrai tueur en série silencieux, hein, docteur Gazin.
Silent killer, on l'appelle, ouais. Bien sûr.
Non, silent killer.
Le silent killer, parce que 9 fois sur 10, il n'y a pas de symptômes. On a le mal de tête, c'est assez rare. Hein. Il y a quand même 12 millions d'hypertendus en France. Mais c'est vrai que elle parle. Bon, je rassure tout le monde a un cavernum. Ça c'est, mais il y a peut-être un problème au niveau de son cavernum. Je ne sais pas exactement. Mais il faut savoir aussi que la crise cardiaque et l'AVC, c'est la même chose. Hein, c'est la même maladie. La crise cardiaque, vous bouchez une artère coronaire. L'AVC, vous bouchez une artère cérébrale, évidemment. Et donc les facteurs de risque qui augmentent la probabilité, c'est la même chose. Ils augmentent la probabilité d'avoir un infarctus et aussi d'avoir un AVC, bien sûr.
Merci beaucoup, Martine, de nous avoir appelé de La Réunion. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com.
Don't go break.
Elton John, Don't Go Breaking My Heart.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42 et nous vous délivrons ce matin quelques conseils pour éviter une crise cardiaque avec le cardiologue Fabien Guèze et le médecin généraliste Sauveur Boucris avec la complicité d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Ça peut paraître banal, mais l'un des principaux conseils de prévention, c'est peut-être d'aller régulièrement chez son généraliste ou son cardiologue, docteur Guèze.
Oui, c'est chez le...
Bien, enfin, faire un bilan régulier de...
Oui, chez l'homme à partir de 40 ans, s'il n'y a pas de facteur de risque, tout va bien. Hein. Chez la femme à partir de 50 ans, oui, bien sûr.
Et docteur Boucris, il est essentiel quand même de s'impliquer dans les prises de décision avec son médecin pour que le message de prévention ait un effet bénéfique.
Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui, les relations médecin-malade ont changé. On n'est plus dans une relation de dominant-dominé, de médecin actif et de patient passif. Et... prendre part à la prise de décision, c'est de d'écouter son médecin quand il nous donne des conseils et des moyens de suivre et de traiter sa maladie. Mais derrière la maladie, il y a le malade. Et le malade, il a le droit de s'exprimer. Il doit s'exprimer, doit dire à son médecin, voilà comment est mon mode de vie, voilà ce que je peux pas éviter. Vous pouvez pas demander à un cadre de travailler 20 heures par semaine. Vous pouvez pas demander à une mère de famille qui a 3 enfants à élever de faire 3 fois par semaine du sport. Enfin voilà, tenir compte de la vraie vie des gens. Et c'est ça qui compte. Voilà, je veux dire, c'est ça, le pouvoir partager.
Alors, docteur Guèze, si on veut faire une crise cardiaque, il faut beaucoup fumer.
Hein ? Ah ouais, alors ça, c'est le fléau numéro 1.
Au moins 6 cigarettes par jour.
Oui, de toute façon, pour le tabac, il n'y a pas tellement de différence. Pour les problèmes cardiovasculaires, il n'y a pas tellement de différence entre fumer 6 cigarettes et 20 cigarettes. Il y a peut-être 2% d'écart, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de consommation modérée. Quand un patient me dit je fume que 5 cigarettes par jour, quand il me dit je fume des light. Je ne sais pas comment on peut parler de cigarettes light. C'est le fléau, le tabac, c'est vraiment la catastrophe.
Alors, arrêter de fumer diminue de moitié le risque d'infarctus dès la première année ?
Ça va très très vite. Je dis toujours, le fumeur a la chance que les lésions arrêtent, on ne va jamais en arrière, mais les lésions arrêtent d'évoluer à la minute où vous arrêtez de fumer. C'est parfois pas mérité, parce qu'on sait que l'ancien fumeur est le plus grand intolérant, le plus grand emmerdeur souvent de tous les temps, parce qu'il tolère encore moins la cigarette des autres. Mais c'est vrai que c'est la chance du fumeur, dès qu'il arrête de fumer, les lésions arrêtent d'évoluer.
Un chiffre, 80% des victimes de crise cardiaque étaient âgées de moins de 45 ans et ils étaient fumeurs.
Bien sûr, quand vous fumez, vous multipliez par 5 ou 6 votre risque d'avoir un problème cardiaque, surtout, et en plus, si c'est associé à d'autres facteurs de risque. En médecine, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 5.
Docteur Boucris, les gens savent bien que fumer n'est pas bon pour le cœur, et pourtant, le message de prévention ne passe pas très bien.
Grâce à nos politiques, d'ailleurs, qui ne sont pas très...
Parce que la vie, c'est compliqué. Parce qu'on fume parce qu'on veut se détendre. On fume parce qu'on n'a pas de substitut à un autre plaisir. Parce que la cigarette, avant d'être une drogue, avant d'être d'un côté nocif, a point de départ positif. On fume parce que ça fait plaisir, parce qu'on a un statut, etc.
Et que c'est pas interdit.
Bon, bref. Donc, la vie elle est plus compliquée que ça. Et je dois dire qu'attention, moi je dis attention, on a une émission qui est très informative, qui donne de très bons conseils, mais qui peut être un petit peu, je dirais, angoissante dans l'idée qu'il faut pas vivre. Et moi je pense qu'au contraire, le plaisir, le bonheur, c'est bon pour la santé.
Alors ça peut angoisser certains auditeurs, mais moi j'aimerais savoir ce qui se passe sur le plan cardiovasculaire quand on fume. Qu'est-ce qui se passe, docteur Guèze ?
Quand on fume, le sang devient plus coagulable. Donc on peut plus facilement faire un caillot, le cœur s'accélère, l'organisme reçoit moins d'oxygène puisque le gaz carbonique prend la place de l'oxygène sur le globule rouge. Donc vous voyez, on est en hypoxémie, c'est-à-dire qu'on a moins de l'organisme est moins oxygéné. Le cœur va plus vite, les artères sont plus spasmées. Vous voyez, ça agit directement et rapidement à l'inverse des maladies du cancer du poumon. On parlait tout à l'heure la prévention depuis des années, elle est très 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 mal faite. Quand vous demandez à 10 personnes quel est votre risque si vous fumez, 9 sur 10 vont vous dire le cancer du poumon. Donc dites à un gosse de 20 ans qu'il a une chance sur 100 d'avoir un cancer du poumon dans 40 ans, il ne va pas s'arrêter de fumer. Personne ne parle des problèmes cardiovasculaires.
Alors bien souvent, on fume quand on est stressé. Et le stress est un facteur de risque très important et souvent sous-estimé, docteur Guèze.
Oui, c'est souvent.
Pourquoi est-ce que le stress abîme-t-il le système cardiovasculaire ?
Alors, il y a le stress chronique, hein, le stress que vous avez au travail, etc. Puis il y a le stress aigu. Celui-ci, c'est un facteur déclenchant. Il peut vraiment être la cerise sur le gâteau, le facteur déclenchant. Une grosse colère, un gros stress peut déclencher une crise cardiaque. C'est évidemment une personne qui a déjà une sensibilité conséquente pour avoir une crise cardiaque.
Et le stress chronique ?
Comment ?
Pourquoi est-ce, le stress chronique, pourquoi est-ce qu'il est délétère pour le système cardiovasculaire ?
Bah, le stress chronique, il va entraîner sur le plan humoral, hein, une sécrétion plutôt permanente d'adrénaline, de cortisol, tout ce qui va peut-être faire un peu augmenter
abîmer les artères.
Abîmer les artères.
Oui. Docteur Boukris ?
Oui, et puis ceux qui sont anxieux chroniques, bah, ceux qui sont stressés chroniques, ce sont souvent des gens qu'on appelle comme ça les profils A, c'est-à-dire des gens très perfectionnistes, très exigeants dans la qualité de leur travail. Ils sont souvent des postes de cadres, de dirigeants qui sont très très exigeants vers leurs collaborateurs. Enfin, ils créent une sorte de tension et un stress qui peut se retourner contre eux, quoi.
Voilà, il y a le bon et le mauvais stress. Hein. Le bon stress, vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez 24 heures sur 24, votre entreprise gagne beaucoup d'argent, c'est un bon stress qui peut peut-être vous protéger. Le mauvais stress, vous êtes chef d'entreprise, votre société doit 20 millions d'euros, vous savez que vous ne pouvez pas les rembourser, ça c'est le mauvais stress.
Alors pour atténuer son stress chronique, on peut pratiquer une activité sportive, et ça peut être bénéfique pour éviter la crise cardiaque, le sport.
Ça peut être bénéfique, on dit toujours faites du sport, mais personne ne dit comment. Le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est vrai que vous disiez, vous, dans votre consultation, vous avez 40 personnes par jour, donc vous n'avez pas le temps de dire. Et c'est vrai que le sport, je dis toujours sur 10 personnes qui pratiquent un sport, il y en a 5 qui ne pratiquent pas le sport pour lequel elles sont faites. Vous avez mal au dos, vous jouez au golf, vous êtes myope, vous jouez aux fléchettes, c'est pas terrible. Et sur les 5 qui pratiquent le bon sport, il y en a 4 qui le pratiquent mal. Donc vous voyez, le bénéfice santé.
Hier, par exemple, dans la forte chaleur, j'ai vu des cadras et des quinquas courir en plein soleil et qui étaient visiblement à la peine. Et ça augmente évidemment le risque d'avoir une crise cardiaque.
Dans une situation extrême, dans le froid, les chaleurs, une grosse humidité, pollution, les périodes de pollution augmentent le risque. Mais le problème de l'activité physique, c'est pas tellement de faire du 110 mètres haies. Les gens confondent activité physique et sport. Le sport, il faut le faire régulièrement. Et une fois par semaine, le sport du dimanche, ça marche pas tellement. Ça donne pas vraiment de plus santé. Il faut faire au moins 2 fois par semaine. Il vaut mieux faire quelque chose de modéré, mais régulier.
Et surtout pratiquer le sport qu'on aime.
Et surtout se faire plaisir, bien sûr. Il faut, le sport corvé n'entraîne aucun bénéfice.
Et puis, il faut surtout se préoccuper du moindre symptôme à l'effort, quand même.
Toujours pareil. Le moindre symptôme à l'effort doit provoquer une consultation chez le médecin généraliste ou le cardiologue.
Docteur Boukris ?
Oui, on revient au principe, je dirais, de bon sens. Hein. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire savoir un peu les sports ou les activités physiques qui nous font plaisir, connaître les aliments, l'alimentation qui nous apporte des satisfactions. Voilà. Et tout ça, ça contribue à un bien-être qui réduit quand même le stress, qui réduit le risque d'infarctus. Quoi. Les contraintes, les frustrations, les interdits, ça peut être très néfaste.
Mais aussi, quelque chose de très important, le sport, c'est pas un capital. Ça descend à toute vitesse. Je dis toujours que c'est comme les Miles Air France, ça monte très lentement, ça descend à toute vitesse. Les patients qui me disent j'étais très sportif quand j'étais jeune, ça ne sert à rien.
Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où ?
De Aurillac, dans le Cantal.
Bon, alors, vous avez fait un infarctus il y a 2 ans et vous étiez plutôt jeune.
Plutôt, oui.
Vous n'êtes pas encore, d'ailleurs. Vous aviez 26 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors, est-ce que vous aviez une vie plutôt saine ? Est-ce que vous étiez, est-ce qu'il y avait des facteurs de risque qui ont provoqué cette crise cardiaque ?
Non, parce que donc j'ai une vie plutôt saine. Je suis agricultrice. Donc du sport, j'en fais un petit peu quand même. Et en plus, là, je revenais d'un repas chez des copains, donc le niveau du stress immédiat, il n'y en avait pas vraiment. Donc,
Oui, mais quel repas, Julie ?
Ça a été la première question que m'a posée le cardiologue. Mais voilà.
Non, oui, il y avait de la graisse de canard, au moins, avec des pommes sautées, non ? Bah, c'est pas mauvais, ça.
Ouais, du poulet et des frites, oui. Mais bon, un repas normal quand même.
Pour être plus sérieux, il n'y avait pas d'antécédents, pas de cholestérol, pas de malformations.
Rien du tout.
Et c'est vrai,
le cardiologue a tout cherché et n'a rien trouvé.
Et c'est vrai, docteur Boukris, tel malade peut avoir une hémorragie cérébrale avec une hypertension artérielle modérée, et puis un autre patient avec une hypertension beaucoup plus élevée sera épargné.
Oui, mais bien sûr. En médecine, comme disait Dr Guest, 2 et 2, ça fait pas 4. Ça peut faire 3, ça peut faire 5. Et je dirais, voilà, c'est un peu ce que j'y raconte dans le livre. C'est-à-dire que le malade a un ressenti, il exprime ça. Et surtout, je crois que les malades doivent s'exprimer, doivent dire les choses et avoir vraiment une libre parole et ressenti et décrire vraiment tous leurs symptômes.
Dr Guest.
Alors. Faire un infarctus à 26 ans, c'est effectivement exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Soit il y a une malformation, soit il y a un problème de coagulation. Mais c'est relativement rare quand même.
Merci beaucoup Julie de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer à nous appeler au 01 45 24 7000. Dernier titre de Liam Gallagher.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Les docteurs Guez et Boukris pour nous délivrer quelques conseils de prévention et l'alimentation dans tout ça, docteur Guez.
Important, bien sûr.
C'est important. Et pourquoi est-ce qu'il faut, par exemple, éviter de manger trop salé?
Parce que le sel retient l'eau, c'est mécanique. Et plus vous avez de l'eau dans les artères et dans le cœur, évidemment, plus la pression monte. Et le cœur fait des efforts contre cette pression. Il va lutter, il va s'épaissir pendant quelques années. Et ensuite, il se dilate. Et on a l'insuffisance cardiaque. Alors, et les artères qui sont sous pression, elles, à l'inverse, ont tendance à se resserrer.
Docteur Boukris, quelle est l'assiette idéale quand on veut éviter une crise cardiaque? On a fait le sport qui nous plaît. On a un niveau de stress plutôt bas. On n'a pas d'antécédents. Et puis voilà, du point de vue de l'alimentation, c'est quoi l'assiette idéale? C'est une assiette, je sais pas, une salade de tomates avec de l'ail, de l'huile d'olive et de colza, ah. Et puis des sardines?
Ah, c'est pas mal, oui, c'est bien. Voilà, les poissons, c'est très bon pour...
Poissons gras.
Oui, les poissons, c'est très bien pour le cœur. Au contraire, les viandes et la charcuterie, c'est pas bon. Le sel, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Manger trop de sucre aussi. Donc, vous voyez, c'est tout ça.
Qu'est-ce que vous conseillez, docteur Gazou, qui est cardiologue? C'est quoi l'assiette idéale?
Encore une fois, tout ça, c'est d'une manière générale, il faut mieux manger. Il faut quand même se faire plaisir. On a le droit de faire des écarts, évidemment, de temps en temps.
Mais si j'ai envie de vous faire plaisir avec de la tartiflette?
Si vous faites de façon rare, évidemment, il y a pas de problème.
Mais si j'aime la tartiflette tous les jours.
Ah, c'est moins bien, ça c'est moins bien. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est pire, si vous voulez avoir une bonne crise cardiaque, vous faites des gros régimes et vous faites le yo-yo avec votre poids.
Ah, le yo-yo est...
Le yo-yo, c'est pire. Il vaut mieux être en léger surpoids et faire du sport plutôt que d'être maigre et sédentaire.
D'accord. Voyez.
Donc, mais le yo-yo, les gens qui me disent, c'est pas grave, j'ai pris 5 kilos pendant l'hiver, mais je vais les reperdre en un mois, c'est encore pire. Je préfère qu'ils soient en surpoids modéré permanent.
Aline Perraudin.
Oui, les graisses, on a beaucoup dit qu'il ne fallait pas du tout manger de graisse animale, mais il y a des études récentes qui montrent que le fromage et le beurre, en petite quantité, hein, n'étaient pas forcément mauvaises. Donc,
et le petit verre de vin, c'est donc, le French paradoxe, le petit verre de vin à table... ça protège. Non, mais aussi
mythe réalité. Enfin, le vin rouge, est-ce que c'est le lobby des alcooliers qui ont quand même bien fait leur travail? Quelle est la réalité réellement?
Toutes les études scientifiques
concernant le vin rouge,
hein, le rosé, le blanc, le champagne sont moins bons pour la santé. Mais le vin rouge, vraiment, plus vous buvez, il y a une étude qui est sortie, plus vous buvez du vin rouge, plus vous améliorez votre paroi artérielle, évidemment. Attention, à prendre avec pincette, parce que l'alcool abîme le reste, évidemment.
Alors, quelques derniers conseils pour avoir une crise cardiaque issue de votre livre, Fabien Guez. Faire le yo-yo avec votre poids, vous l'avez dit. Fumer même modérément. Fumer juste avant de faire un effort physique. Ne rire jamais. Boire plus de 3 verres d'alcool par jour. Pratiquer les régimes extrêmes. Multiplier les apéros chips. Reprendre le sport brutalement. Manger de la réglisse. Pourquoi
la réglisse? Oui, la glycérine fait monter la tension à toute vitesse.
D'accord. Bon. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. On fera d'autres émissions de prévention concernant la crise cardiaque. Merci Sauveur Boucris. Libérer le médecin qui est en nous, c'est au Cherche Midi. Merci Fabien Guez. Comment avoir une crise cardiaque est disponible chez Hugo Doc. À la technique ce matin, Léo Prangère et David Federman. Demain, on se demande si tout le monde est capable d'empathie. Nous attendons vos questions. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre Nagui et sa bande originale.
Grand bien vous fasse avec...